الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Beaucoup de bénédictions du salut sur le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur tous les siens, jusqu'au dernier jour. Amen. Que nous soyons au nombre de ceux-ci qui récitent le Coran, et que le Coran soit alors la nutrition de nos cœurs, que nous le récitions le jour et la nuit, et qu'il soit alors qu'il va intercéder pour nous. Le dernier jour, le prophète alayhi salatu wa salam dit, après salam alaykum bien sûr, il a dit, le jeûne et le Coran intercèdent pour la personne le dernier jour. Alors, le jeûne et le Coran ensemble, la combinaison des deux. Alors, le jeûne dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, que ce serviteur s'est abstenu de manger et d'avoir ses désirs pendant les jours. Et le Coran dit, alors il n'a pas dormi. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des gens qui lisent le Coran le dernier. Celui qui vit la vie de celui qui lit le Coran, il aura l'intercession du Coran. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, le Coran intercède. Il est plein, c'est-à-dire le Coran sera l'intercession totale pour celui qui le récite. C'est un livre véridique. Même il avance les arguments en faveur de ceux qui le récitent. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit, lisez Al-Baqarah et Al-Imran, car ils viennent le dernier jour comme deux nuées ou comme deux groupes d'oiseaux qui avancent les arguments contre les arguments pour ceux qui les lisent le dernier jour. Ô Dieu, que tu nous donnes le bonheur avec le Coran et que nous soyons au nombre de ceux-ci qui récolteront le succès. Nous allons parler aujourd'hui de la deuxième partie sur les versets de Sourate An-Naml, formé alors Solomon qui est le fils de David. Nous avons parlé hier comment il avait inspecté cette troupe. Il avait entendu le farmi qui avait dit que Solomon et ses soldats vont vous écraser. Alors ses collègues qui étaient à côté d'elle. Le prophète alayhi salatu wa salam il y avait un Satan parmi ses troupes. Et ça c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui dit qu'il y avait une fois il avait même retenu le Satan. Le Satan qui était auprès du prophète alayhi salatu wa salam dans la mosquée. Il a dit, je voulais le faisceler pour que les enfants alors jouent avec lui. Mais je me suis rappelé ce que Solomon avait dit, oh Dieu, que tu me donnes un royaume ou des biens qui on n'a jamais eu. Allah subhanahu wa ta'ala avait exaucé la demande de Solomon. Il lui avait donné un royaume qu'il n'avait jamais donné à qui que ce soit. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il avait les soldats, les êtres humains, les oiseaux, les animaux. Il était donné plusieurs genres de biens de l'époque. Il avait des armées, pas une seule armée. même une fois on voulait montrer les chevaux. Alors, et on a commencé la parade après la prière de Asr, tous les chevaux qui, alors que seulement alayhi salam avait possédé, et il y avait la parade jusqu'au coucher de soleil. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans ces parades-là, il y a beaucoup de beauté. Et lorsqu'il a vu que le soleil vient de se coucher, et il avait oublié d'invoquer le nom de son Dieu jusqu'au coucher de soleil, et à ce moment-là, il avait ordonné à égorger tous les chevaux, parce qu'ils étaient la raison, alors, pour lui d'avoir omis son Dieu. Alors, il les avait fouettés, il les avait égorgés, ils étaient divisés, alors répartis sur les pauvres, car ces chevaux-là étaient la raison, alors, d'avoir fait Sulayman oublier son Dieu et d'invoquer le nom de son Dieu. Et c'est pour cela, celui qui est un vrai musulman, rien ne doit te dévier, te distraire d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son adoration. Ça, c'est une tradition que l'on peut imiter. Toute chose qui te distrait et tu loignes de la religion, tu dois l'éloigner de toi. Pourquoi? Parce que c'est la religion qui doit l'emporter sur toute chose. C'est lié, les tons, alors pour faire les adorations, surtout dans l'institution divine, il faut oublier toute autre chose. Et c'est mieux que ce soit, bien sûr, des pensées au nom, alors sur le sentier d'Allah. Solomon, il a dit une fois, elle a dit, je vais contourner toutes les maisons des femmes, une centaine de femmes. Elle va visiter une centaine de femmes. Et elle a dit, chaque femme, elle va accoucher un enfant. Mais elle n'a pas dit, Inch'Allah. Elle a commencé à contourner la ville. Elle avait 100 femmes. Aucune femme n'était enceinte, sauf une seule femme qui avait la moitié d'un homme. C'est-à-dire, il avait accouché un être humain où tu vois par exemple la partie basse ou os est là, tandis que l'autre partie n'est pas là. Le prophète alayhi salatu wa salam nous avait parlé de cela car elle était mentionnée dans le livre d'Allah, mais le prophète alayhi salatu wa salam nous avait expliqué ce verset-là. En vérité, il ne voulait pas être fier d'avoir beaucoup d'enfants, mais il voulait faire le djihad sur le sentier d'Allah. La seule faute qu'il avait faite, il n'a pas dit « Inch'Allah, si Dieu le veut ». Et c'est pour cela, ça c'était le résultat. C'est pour cela, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, notre prophète Muhammad, alayhi salatu wa sallam, dit « Jamais que tu feras quelque chose de moi, sans que tu dises « Allah le veut ». Et invoque le souvenir de Dieu chaque fois que tu veux faire quelque chose dans l'avenir. C'est pour cela qu'on doit toujours, quand tu fais quelque chose dans l'avenir, pas de passé. Bien sûr, tout ce qu'il y a, tout ce qui relève de passé, c'est quelque chose qui s'est achevé. Si quelqu'un te dit tu es soudanais, tu dis Inch'Allah, non, tu es soudanais, tu es non soudanais, tu es soudanais. Alors Inch'Allah, si Dieu le veut, c'est seulement combiné avec tout acte qui se fera dans l'avenir. Alors Inch'Allah pour l'avenir, même pour après un petit moment, mais ça fait partie de l'avenir. On dit qu'il y avait un homme qui avait de bien, il allait au marché. Alors, on a dit, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vas faire dans le marché? Elle dit, je vais acheter une vache. Et si elle doit dire, alors si Dieu le veut. Lorsqu'il est entré, cet homme-là, alors un voleur lui avait pris l'argent. Alors quand elle est revenue, on a dit, où tu n'as pas une vache? Il a dit, l'argent est perdu, Inch'Allah. Alors il a parlé de passer tout en disant, Inch'Allah. Et c'est pour cela, et si il faut que tu t'habitues à dire, Inch'Allah, à toute chose, à partir du moment où tu parles, c'est-à-dire à toute chose qui se fait dans l'avenir. La semaine prochaine, je vais dans ce pays-là, Inch'Allah. Alors, comme Solomon avait oublié, avait omis de dire cette phrase-là, c'est ce qui s'appelle l'exception. Même, on peut le faire quand on fait des vœux ou... Par exemple, si un serviteur dit, par Allah, je vais aller à la Mecque, on dit, Inch'Allah. Alors, dans ce cas-là, si il ne voyage pas à la Mecque, il n'a pas besoin d'une expiation. Le mot, Inch'Allah, ou s'il dit, j'ai mon fils qui est malade, je dis, si mon fils guérit, je vais, Inch'Allah, égorger une vache. S'il ne guérit pas, c'est-à-dire ici, dans ce cas-là, il ne doit pas exécuter alors son vœu. Et qu'est-ce que c'est kafara? C'est l'expiation. L'expiation, alors, c'est-à-dire donner, ce n'est pas l'expiation, ce n'est pas égorger une vache. C'est-à-dire, elle consiste en quelques jours de jeûne et donner à manger aux pauvres. Alors, je dis, cesse. Alors, on pense toujours qu'on doit jeûner pour, comme expiation. En vérité, l'expiation, en vérité, donner à manger à 10 pauvres. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Alors, donner à manger à 10 pauvres, c'est-à-dire de ce qu'on donne aux moyens, ou c'est-à-dire les habiller, ou les donner les habits, ou si tu ne peux pas faire ça, c'est-à-dire tu dois jeûner 3 jours. Alors, c'est un choix de 3. Si tu ne peux pas faire les 2 premiers, tu dois faire le 3e. Alors le jeûne, c'est la dernière chose. 3 jours. On revient au récit de Sulayman, alayhi salatu wa salam. On revient où nous en étions hier. Nous savons que Lupe avait apporté à Solomon alors l'histoire de Balkis, qui était la reine de Saba. C'est la seule chose qui avait attiré son attention, qu'ils avaient adoré, c'est-à-dire le peuple de Balkis avait adoré le soleil. Regardez, Solomon était le roi et pourtant, il a dit, Lupe était absent, s'il ne m'apporte pas une raison justifiée, je vais le châtier. Mais s'il avait une raison justifiée, je ne le châtierai pas. Et c'est pour cela, Lup, il est venu avec la nouvelle des gens de Balkis. Et après, regarde, Solomon, elle dit, on va vérifier, en s'adressant à cet Lup, on va vérifier si tu avais dit la vérité. Et il y avait un de jeunes qui était, alors c'est le Lup qui est allé, et il avait vérifié. Regardez comment Solomon, alayhi salam, l'oiseau est là, avec ses 2 ailes. Solomon, il aurait pu le lâcher de nouveau. Mais, même s'il vole ou s'il s'envole, il sait que Solomon va le récupérer. Alors ici, Solomon va vérifier c'est ce que Lup avait dit est la vérité. Lup, c'est exactement que Sulayman peut le récupérer où il est. Sinon, s'ils sont, il peut s'envoler. C'est l'été menteur. Salomon avait la confiance qu'il peut le récupérer. Alors, elle avait donné une lettre à ses tupes pour donner à ces gens-là, les gens de Balkis. Alors, l'oiseau, et la raison c'est pour cela, elle lui avait donné deux commandes. Elle a dit, ne reviens pas, mais il faut que tu sois la top, que tu saches ce qu'elles disent. Après la réception de ma lettre. La lettre, elle a reçu la lettre, on dit par Lup, elle l'avait jetée sur la reine. Alors Balkis avait rassemblé son entourage et l'a dit au vous Almala, c'est-à-dire les grands hommes qui sont autour d'elle. Et leur avait dit qu'elle avait reçu une lettre. Et pourquoi il a dit Kitab un Karim, une lettre honorable, parce qu'elle vient d'un roi. Alors, cette lettre-là, regardez, il a dit Innahu, c'est la chose suivante, il est de Sulaiman et il est au nom de Dieu le miséricordieux. Alors c'est Salomon qui avait envoyé cette lettre-là. Alors, que ne soyez pas enflés d'orgueil, venez en tant que musulman vers moi. Même on dit c'est Salomon qui avait écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim pour inaugurer les lettres. Et ça fait partie, bien sûr, ça fait partie alors d'un verset dans le Coran. Et comme nous savons, peut-être il y a une divergence entre les imams, s'il fait partie ou non de la sourate. Alors, il dit à ces gens-là de ne pas être enflés d'orgueil et qu'ils viennent en tant que musulmans, c'est-à-dire en soumission totale, et viennent vers lui. Et ça peut être susceptible d'être interprété de deux façons, soit pour Sulaiman ou soit il voulait dire pour Allah, soumis totalement à Allah. Il a dit, où vous, alors, Al-Mala, les grands hommes, c'est les ministres et les autres conseillers. Il avait consulté les gens de l'État. Il a dit, donnez-moi un fatwa. Car je ne veux pas instituer avant que vous me donniez votre avis. Et c'est pour cela que tu es une femme modeste. Ce n'était pas comme Pharaon, c'est-à-dire qu'elle n'était pas comme un dictateur. Elle voulait justement avoir l'avis de chacun de ces hommes-là. Elle était très intelligente. C'est-à-dire, elle a consulté les hommes qui sont autour d'elle, et ça c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné même à son messager de consulter. Elle a dit, « Washawirhum fil amr, tu les consultes dans toutes les affaires, comme c'était le cas dans la bataille de Badr, dans Uhud, dans l'Ahzab. » Même elle avait consulté ses femmes. Ça, en islam, il y a le principe de shura, de la consultation. C'est-à-dire, les gens, ou comme on dit, comme un conseil de sage, qui donne son avis à l'égard de chaque question. Ça, ce n'est pas la démocratie dont on parle de nos jours. L'islam ne reconnaît pas cette démocratie. Dans ces parlements, regardez, c'est qui amène les gens, les représentants, c'est le peuple. Mais quelquefois, les biens peuvent amener certains groupes à venir dans le parlement. peut-être même dans certains pays, elle peut appartenir à un groupe ou à une tribu, elle peut être dans le Parlement grâce à cette chose-là, tandis qu'un conseil de sages, c'est selon la raison, selon les capacités. Vous voyez, c'est pour cela, dans certaines conditions, il y a des gens qui montent tout le temps pour avoir un siège dans le Parlement. C'est pour cela, je parle de la consultation, ce n'est pas de la démocratie. Les hommes, ils ont dit, nous avons beaucoup de pouvoir. On dit, tous ces ministres-là, chacun d'eux avait 12 chefs militaires. Et c'est pour cela qu'ils étaient très fiers de leur force. Alors, ils ont conseillé à la reine de faire la guerre. Car elle était intelligente. Elle a dit, si le royaume entre dans une ville, il sème la corruption, il rabaisse les gens qui sont des gens d'honneur. Les choses changent. C'est-à-dire, s'il y a une puissance militaire, cette puissance militaire est pour rabaisser les gens qui sont dans le pays, dans le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on élimine tout le monde qui était à la tête de cet État. Ce sont les hommes qui étaient très fiers et maintenant ils sont rabaissés. On commence à détenir les leaders et à les châtier. Et cette femme avait parlé dans ce sens-là. Mais ça, ce n'est pas une règle générale. Car les gens, les croyants ne veulent pas toujours avoir une position haute dans cette vie de ces bas mondes. Ils ne sont pas de hauteur. Tout cela ne peut pas être lié à la foi. Et c'est pour cela que les musulmans étaient la meilleure gouvernance, car il y avait toujours la modestie. Omar ibn Abdelaziz avait envoyé une armée vers l'Orient. Et lorsqu'il est entré dans un de ses royaumes de jadis, et lorsqu'on s'est emparé de ce pays-là, on a averti les gens. Dans ce cas-là, on n'a pas donné le choix aux gens de payer la tribu qu'on avait payée en tant que non-musulman. Les gens qui étaient dans le pays, ils avaient écrit une lettre à Omar ibn Abdelaziz pour dire, regardez, votre armée est entrée, il ne nous a pas donné le choix. C'est-à-dire de convertir l'islam ou de payer la tribu. Le messager qui était envoyé par ce royaume-là, chez Omar ibn Abdelaziz, il avait les gens qui se sont prosternés, qui ont fait l'inclinaison, qui faisaient la prière. Et lui, il était étonné. Où il est le calife? Il était arrivé au calife et il a trouvé un homme qui était en train de réparer sa maison. Il avait pris même les briques en bout pour construire la maison. Et l'homme, le messager, il a dit, non, ça, ce n'est pas le calife. On a dit, c'est celui-là, le maçon qui est en train de construire le mur debout, alors c'est celui ou de la terre, c'est celui Omar ibn Abdelaziz, radiyallahu anhu. Et l'homme, il était complètement stupéfait de voir le calife faire ce travail-là. Il a lu la lettre et il a écrit au verso, car il avait le recto verso, il a écrit à ce gouverneur qui s'est emparé de pays de faire recours aux règles de l'islam et de donner le choix à ces gens-là. Et lorsque le messager a regagné son pays, le messager, il a dit, j'ai amené ce papier-là qui était plein de boue parce que Omar ibn Aziz était en train de construire un mur. Il avait appelé le chef de l'armée les gens qui ont déposé la plainte, après l'avait le juge, et le juge musulman avait instauré à ce que l'armée musulmane sorte de ce pays-là, parce qu'il ne sait pas, il n'a pas exécuté les ordres qu'on avait toujours donnés pour les armées musulmanes. Et c'est pour cela, il y avait, regardez, ça c'est la justice totale. L'armée musulmane avait quitté le pays parce qu'il n'a pas suivi la même procédure que toutes les autres armées musulmanes avaient suivi. On revient maintenant au récit de Sulayman. Elle voulait savoir si c'est quelqu'un qui cherche vraiment les biens, les valeurs, ou c'est quelqu'un d'autre qui adore Allah, elle ne veut pas autre chose. Elle avait choisi parmi les meilleurs hommes, elle avait ramassé beaucoup de cadeaux, et elle avait envoyé ces hommes-là avec les cadeaux. Alors ils sont arrivés, ils étaient auprès de Salomon, et ils ont dit qu'ils étaient envoyés par la reine de Saba. Les cadeaux étaient avec eux. Et la première réponse de Salomon, vous allez m'apporter les biens, tandis moi j'ai suffisamment de biens d'Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas besoin. Elle a dit, prenez vos cadeaux et regagnez votre pays. Nous allons chercher, vous cherchez avec nos armées. Dans ce cas-là, lorsque les cadeaux étaient renvoyés, Balkis était sûre et certaine que l'homme avait un autre but, ce n'est pas pour les biens de ce monde-là. Et après, il avait, seulement alayhi salam, avait recruté le djinn pour apporter le trône de Balkis. Alors un djinn, il a dit, je peux t'apporter le trône avant que tu ne te lèves de ton siège. Alors pendant quelques heures, il sera là. Ça c'est un djinn, un afrit de djinn. Et on dit que ce djinn-là connaissait le grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce duquel Allah donne tout. C'est-à-dire, dès qu'il ferme ses yeux, après quelques moments, il trouvera le trône de Balkis devant lui. Allah dit dans le Coran, celui qui a la connaissance du livre, il dit, je t'apporte le trône avant que tu fermes les yeux. Regardez, pour que tu vives la même scène. Allah subhanahu wa ta'ala, il a sauté d'une phrase à l'autre phrase, sont passés par le verbe ata, il l'avait amené. C'est-à-dire, il l'avait amené, c'est-à-dire, il y a une lacune entre les deux actes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, lorsqu'il a ouvert les yeux, il avait trouvé le trône devant lui. Le trône que le djinn avait apporté, et Balkis était là-dessus. On dit même, ce trône-là, il était mis dans un coin, et il avait 7 portes quais, car il avait beaucoup de parures qui étaient dans ce siège-là. Salomon n'avait pas oublié que celui qui avait la bénédiction. Regardez, ce n'est pas comme les grands chez nous. Par exemple, si quelqu'un fait un projet, après il aura alors le succès, après elle sera fière de lui. Regardez, ce monde qu'elle avait réussi, il a dit, ça c'est la bénédiction d'Allah, c'est grâce à Allah que j'avais ça. C'est pour cela, dès que tu as le succès, tu dois toujours attribuer le succès à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la modestie. Il avait le trône devant lui. Il a dit, ça vient de mon Dieu. pour le remercier. Et celui qui remercie Allah, c'est pour soi-même. Sulayman l'avait reçu. Il est venu auprès de lui. Il a dit, même elle avait que, et on avait affecté quelques changements au trône, et seulement pour l'attester, elle a dit, c'est ça ton trône? C'est ainsi ton trône, pour savoir si elle reconnaît qu'il s'agit de son trône. Elle regardait, elle, Balkis, à son trône. Il y a quelques indices qui disent c'est son trône. Mais elle avait peur. Si elle dit, oui, sur mon trône, peut-être elle se trompe, ou à l'envers. Il a dit que voilà, elle ressemble à mon trône, comme si c'était mon siège. Alors, bien sûr, ça, c'est une réponse courtoise, diplomatique. Alors, Solomon, avec ce test, elle voulait tester son intelligence. Et après, elle lui avait montré tout ce qu'Allah lui avait donné des bénédictions. Elle avait même construit des fortifications, même des bouteilles qui ont la couleur de l'eau. Lorsqu'elle était entrée dans ce palais qui était vitré, alors elle a levé ses habits parce qu'elle pensait qu'il s'agissait de l'eau. Elle a dit non, ce n'est pas de l'eau. Ça, c'est-à-dire le plafond et le plancher sont vitrés. Elle a dit, oh Dieu, je me suis fait tort et maintenant je suis soumis avec Sulayman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on dit même les exégètes, elles disent qu'il était quelqu'un qui a l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il était empêché par les gens qui étaient des incrédules. On va une nation entière embrasse l'islam grâce à Lup. Lup n'est qu'un moyen, car elles adoraient le soleil. Elle avait donné la nouvelle à Solomon, et c'est pour cela que Solomon les avait appelés à se convertir. Toi, tu dois regarder combien de frères avaient embrassé l'islam grâce à toi, combien de frères qui n'avaient pas fait la prière, ils ont fait la prière grâce à tes prêches. Regardez selon Luc, ce sont des milliers et des milliers qui avaient embrassé l'islam et grâce à l'action de Luc. Et toi, tu dois réfléchir combien de personnes avaient embrassé l'islam grâce à toi. Et si je veux dire, il y a parmi nous certains qui n'étaient pas capables même de rectifier le chemin de sa femme ou de ses enfants, voire les autres qui ne sont pas des musulmans. Lupin, c'était un oiseau, un animal. Et il n'existe, dans la tradition prophétique, c'est-à-dire, si tu peux guider un seul homme, ça sera pour toi mieux que les biens de ce monde-là. Le prophète, alayhi salatu wa salam, dit ça dans plusieurs hadiths. C'est-à-dire, si tu prêches et tu peux guider les autres, tu auras autant de récompenses auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mieux que tout ce que nous avons dans ce monde-là. Amen.